BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h03. Vous êtes toujours en direct sur BFM. C'est les experts avec aujourd'hui Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France et professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et Valentine Hénouz, responsable de la stratégie taux chez Amundi. On va parler un peu dans la suite du précédent thème, des finances publiques, l'éléphant dans la pièce, on le sait, c'est évidemment les retraites, première dépense et de loin en France, un quart de la dépense publique. Anne-Sophie, vous disiez avant la coupure pub que le sujet pour le rétablissement des comptes publics, c'était évidemment aussi d'augmenter les gains de productivité pour réduire la dette, réduire les déficits. Bon, on sait que si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on le dit et on le répète aussi sur cette antenne, la France n'aurait plus de problème de déficit, à la fois chez les jeunes et chez les seniors, qui sont les deux grands pans qui pêchent dans ce pays. Bah, ça nous ferait 140 milliards de recettes supplémentaires. C'est exactement le montant du déficit actuel. Alors, le débat qui monte, moi, c'est ce qui m'intéresse ce matin, c'est sur la suppression ou pas de l'âge légal de départ en retraite. Ça a été l'irritant en 2018-2019. Édouard Philippe l'avait imposé dans la réforme Macron. Les Français ont dit non, pas de report de l'âge légal. C'est ce qui bloque. Alors, pour contourner le sujet, Gabriel Attal et Jordan Bardella proposent tous les deux de supprimer cet âge légal. Écoutez, faites comme vous voulez, liberté aux Français. Vous cotisez peu, vous aurez peu de retraite. Vous cotisez beaucoup, vous aurez davantage de retraite. Est-ce que c'est une bonne idée, Anne-Sophie Alsif?
Alors, déjà, il faut aussi toujours, sur ces questions, regarder ce que les autres ont fait, puisqu'on est tous confrontés en Europe à ces problèmes de vieillissement de la population et de financement de la dépense publique.
Oui, on est les seuls à ne pas faire de réforme.
Tous les autres pays européens ont un âge, pour la majorité, de départ à la retraite. Et pourquoi c'est important d'avoir cet âge? Parce que ça permet d'avoir un signal, notamment sur le fameux taux d'emploi. On l'a vu, quand on a fait la réforme des retraites, les dernières réformes, on augmentait à chaque fois l'âge légal de départ. Et tout de suite, vous aviez un effet mécanique d'augmentation du taux d'emploi, notamment sur les 55-64 ans, dès que vous avez un report de l'âge légal. Pourquoi ? Parce que ce soit les entreprises, les agents économiques, que ce soit même dans le public partout, c'est un signal qui vous permet d'organiser le monde du travail, vos recrutements, vos départs en retraite. Donc c'est un signal temps, on va dire, même de prospective, qui est important, pas qu'en France.
Structurant.
Également dans les autres pays. Après, ce qui peut se faire, on le voit dans les pays nordiques, vous pouvez avoir un âge légal de départ et ensuite avoir beaucoup plus de mécanismes pour rester en emploi. C'est-à-dire avoir des mécanismes où vous pouvez travailler à temps partiel. Ça se fait beaucoup en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, en effet, vous avez un taux d'emploi qui est beaucoup plus élevé, mais très peu de gens à 70 ans travaillent toute la semaine à temps plein. Vous avez beaucoup plus de mécanismes une fois que vous êtes parti à la retraite pour continuer à travailler et qui sont mixtes et qui permettent d'aller à la retraite totalement progressivement en restant dans l'emploi. Et bien évidemment, ces mécanismes, quand vous restez dedans, vous payez des taxes, des impôts et donc en effet, plus de recettes fiscales. Donc à mon sens, c'est beaucoup plus là-dessus qu'on peut aller. Un âge de départ qui permettra d'augmenter le taux d'emploi et puis davantage de mécanismes à côté pour pouvoir faire que les gens restent en emploi s'ils veulent. Il faut le rappeler, à l'âge effectif de départ, c'est plus de 63 ans parce que les gens veulent rester plus tard.
C'est le cas aujourd'hui, on est à 62,9 je crois.
Exactement,
on est
pour des histoires de pouvoir d'achat, parce que les gens veulent bien sûr peut-être partir, mais avoir toujours du pouvoir d'achat. Donc ça peut tout à fait marcher, en tout cas c'est ce que les autres pays européens ont fait.
Ouais, alors en fait, ça revient à l'histoire de la retraite à points, quoi. Tu vois, à la fin, c'est-à-dire on a cotisé tant, etc. Après, âge minimum, il existe quasiment partout, en fait, l'âge minimum. Curieux, je me suis toujours posé la question de savoir.
Et donc,
pourquoi.
C'est qu'on en a besoin.
Une fois, j'ai posé la question au président du MEDEF, qui m'a expliqué qu'en fait, si on voulait une réforme réellement efficace, il faut pousser l'âge minimum. Et en fait, en supprimant la question d'âge minimum et en disant, en fait, vous aurez la retraite, vous pouvez prendre votre retraite quasiment quand vous voulez, mais à ce moment-là, ça serait une toute petite retraite si vous partez tôt, une plus grosse retraite si vous partez tard, à vous de choisir. Il m'a toujours expliqué qu'en fait, ça avait quasiment aucun effet. Bon, je sais pas pourquoi, mais moi, intellectuellement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de laisser de la liberté aux gens, de s'organiser. Bah, y a des gens qui vont partir plus tôt avec une plus petite retraite, il y a des gens qui vont partir plus tard.
Oui, parce qu'on peut avoir du capital, on peut avoir hérité, on peut avoir d'autres
ressources. Il y a tellement de situations. Et puis, la dernière chose que je note, c'est que il y a un impératif, c'est quand même trouver une solution à cette situation française très très particulière, et donc le coût des retraites qui s'accroît parce que on a de moins en moins de cotisants, parce qu'on n'a pas fait la retraite par capitalisation, parce que il faut trouver une solution. Or les Français, ils ont l'âge de la retraite en ligne de mire. Donc peut-être qu'en supprimant cette idée d'âge de retraite, on pourrait faire les réformes qui de toute façon vont s'imposer.
Après, ce qu'on entend beaucoup, c'est que s'il n'y a plus d'âge légal, il y a quand même un minimum de durée de cotisation pour garantir l'équilibre et que la durée de cotisation pénalise les carrières hachées et notamment les femmes qui se sont arrêtées de travailler quand elles ont eu des enfants, Valentine et nous.
Je pense que c'est vraiment contourner le problème de supprimer.
Non, mais on cherche justement, on voit le blocage français face à cet âge légal.
Je trouve l'idée d'Anne-Sophie assez intéressante que ça, le minimum de départ à la retraite, c'est quand même un signal qui est donné sur le marché du travail. Vous allez quand même devoir travailler jusqu'à tel âge. Après, ça n'empêche pas aux gens d'avoir leur liberté personnelle et de prendre leur retraite plus tôt. Après, il faut quand même, pour moi, on a véritablement aujourd'hui un problème de financement des retraites. Aujourd'hui, on parle de l'âge à la retraite, mais il y a des solutions qui sont multiples, qui sont augmenter les cotisations, réduire les pensions de retraite, allonger l'âge de départ à la retraite, ou moi, une des solutions que je trouve plutôt par le haut et que je préfère, c'est introduire aujourd'hui une part plus grande de financement des retraites par capitalisation.
Oui.
Je pense que pour moi, c'est une des solutions. Il n'y a pas
une solution. Est-ce que ce n'est pas ce qui est exactement en train d'être fait avec l'explosion des PER, des plans épargne retraite, 15 millions depuis 2019 ?
Parce que ça répond à un double problème. Aujourd'hui, on parlait quand même toujours ce problème de manque d'investissement en Europe. Et quand on regarde le patrimoine, les actifs des... Alors, c'est absolument pas qu'un problème français. Pour moi, c'est un problème européen. Mais quand on regarde les actifs des ménages européens, 70% on est sur de l'immobilier, 30% on est sur des financiers. Aux États-Unis, c'est tout simplement l'inverse. 70% sur du financier, 30% sur l'immobilier. Parce que le ménage américain, dès son plus jeune âge, c'est un investisseur qui doit réfléchir à sa retraite, à très long terme évidemment, et il doit investir dans l'économie sur du long terme. Et c'est ce qui nous manque en Europe aujourd'hui, des financements actions de long terme. Donc pour moi, la sortie par le haut de ce sujet épineux qui est le financement des retraites, il n'est pas unique, il y en a plusieurs, et je pense qu'on va devoir jouer sur tous ces créneaux, et c'est aussi augmenter la part de financement des retraites par capitalisation.
Ça dit aussi quelque chose de notre rapport au travail. Davidia nous dit au Danemark, l'âge de départ est de 70 ans, mais l'organisation du travail est plus souple.
Oui,
fin de journée à 16 heures, beaucoup de télétravail. C'est un système basé sur la confiance et non sur la méfiance, comme en France. On a un rapport particulier au travail en France ?
Non, pas particulier. C'est juste qu'on a une structuration de la manière de travailler qui a été juste différente. Quelle a été-t-elle ? On a eu, en effet, les 30 Glorieuses. On a été un des pays fondateurs à avoir, en effet, le plus de croissance après la guerre. Et dans un contexte où, en effet, vous partiez tôt à la retraite parce que vous viviez beaucoup moins longtemps à la retraite. Donc déjà, il faut le dire, de vivre très longtemps en bonne santé, c'est déjà une bonne nouvelle.
Oui.
Et ça montre qu'on a eu un système qui a très bien fonctionné. Donc ça, il faut quand même s'en réjouir plutôt que de voir l'aspect positif, négatif. Donc ça, c'est quand même bien. Et l'autre élément, c'est qu'en effet, dans ces années-là, à 60, c'était déjà très tard puisqu'on restait très peu de temps à la retraite en bonne santé. Donc l'idée, c'est d'avoir en effet un temps de travail. C'est-à-dire, quand vous regardez la productivité horaire, la France est l'un des pays européens où elle est le plus élevé.
C'est toujours vrai, ça. On reste toujours dans le peloton.
Il y a d'autres pays du Nord qui le sont aussi, mais on est un des pays où on est le plus élevé. Donc en fait, on a une grande quantité de travail, 25-55 ans, où là, vous travaillez très, très, très intensément, avant beaucoup moins et après beaucoup moins. Alors que dans les pays nordiques, c'est sûr que si vous travaillez jusqu'à 70 ans, vous ne pouvez pas avoir cette cadence-là. Donc, vous allez avoir un étalement beaucoup plus important de votre manière de travailler.
Guillaume.
Oui, non, mais pour avoir travaillé dans 12 pays en Europe et dirigé une entreprise qui était dans 12 pays, il est sûr que en France, on a un rapport conflictuel.
Vous l'avez vécu,
dans l'entreprise.
Au sein de votre entreprise,
Bien sûr.
Beaucoup plus qu'ailleurs.
Beaucoup plus qu'ailleurs.
C'est intéressant.
Et on
trouve
beaucoup plus des solutions facilement avec des syndicats allemands, avec des syndicats des pays du Nord, qu'en France. Oui. Mais ça, tous les patrons vous le diront. On a ce problème en France.
Et qu'est-ce qui explique cette conflictualité?
Je crois que les choses sont un tout petit peu en train de... Mais pendant très longtemps, en France, on a pensé que l'entreprise, c'était le lieu d'affrontement entre le patron et le syndicat.
C'est la lutte des classes.
C'était même, je vais vous dire, quand moi j'étais en quatrième, dans mon premier manuel d'économie, en définition de l'entreprise, il y avait une des définitions qui est l'entreprise, c'est quoi? C'est le lieu d'affrontement entre patronat et syndicat. Définition de l'entreprise. Oui. Donc, il faut quand même savoir d'où on vient. Et avec ces syndicats qui sont réputés représentatifs, alors qu'en fait, ils représentent très peu aujourd'hui, du point de vue des trucs. Bien sûr qu'on a des sujets de construire et de construction ensemble du dialogue social. C'est, on peut pas dire le contraire. Et c'est particulier à la France, oui.
Alors par rapport à ça, comme déjà Sophie le taux de syndicalisation en France, dans le secteur privé, est un des plus bas des pays européens. Et pour répondre à votre question, pourquoi on a une vision totalement différente, des pays comme l'Allemagne ou les pays nordiques ont été totalement détruits après la Seconde Guerre mondiale. Et donc la reconstruction du pays s'est faite avec les syndicats patronaux et ouvriers. Et donc l'idée, c'était d'avoir, il fallait refaire absolument tout le pays parce qu'il n'y avait vraiment plus rien, d'avoir une construction de l'entreprise qui se fasse à deux.
Et
dans ces pays-là
aussi
dont vous parlez, vous avez été chef d'entreprise dans plus de 12 pays, ces pays-là ont souvent beaucoup plus d'intéressement, ont beaucoup plus de mécanismes de rémunération des salariés qui sont en lien avec la performance de l'entreprise.
Et donc forcément, et de l'actionnariat salarié.
Et de l'actionnariat salarié.
En Hollande, mon premier investisseur dans Unibail à l'époque, c'était le syndicat des métallurgistes hollandais, qui était dirigé par les syndicats.
Exactement.
Il faut pas l'oublier.
Voilà.
Les syndicats. Donc j'avais au conseil d'administration des syndicats. Je peux vous dire qu'ils rigolaient pas avec les coûts.
C'est pas du tout la même structuration. Donc quand vous êtes intéressé, forcément, vous avez un rapport aussi différent dans la gestion de votre entreprise, ce qui est beaucoup moins développé en France.
Mais pour rebondir sur la Hollande, si on regarde la Hollande, c'est un pays où il y a une culture action beaucoup plus forte que sur le reste de la zone euro. Les pays nordiques et la Hollande, il y a une véritable culture des
actions. Protestante.
Et culture de prise de risque de la part des ménages, qui est totalement différente de ce qu'on peut avoir.
Est-ce que ce n'est pas lié aussi, nous, à cet énorme ballon qu'on appelle l'assurance-vie, qui est dirigé quand même très largement sur les produits de taux pour financer notre déficit? On va revenir à la conversation d'avant. Et finalement, est-ce que ce n'est pas la pompe à OAT, en fait, qui dérive aussi une partie de cette épargne vers des supports taux plutôt que des supports actions?
Ça joue aussi. Mais si on regarde la retraite par capitalisation, quand on verse des pensions, elles sont immédiatement reversées. Tandis que quand on veut faire de la retraite par capitalisation, on verse des pensions qui, elles, sont accumulées dans des fonds. Donc là, il y a deux schémas qui sont totalement différents.
Bon.
Donc pour moi, ça joue, oui, ces besoins de financement de l'État, plus après le mode de financement des retraites.
Ce qui est compliqué, c'est que souvent on refuse la capitalisation en disant qu'il y a un problème d'équité. Le problème, c'est que vous l'avez très justement dit, aujourd'hui les gens font leur retraite ou dans l'investissement locatif ou en ayant en effet des placements à côté pour préparer leur retraite. Donc il y a déjà une forme, on peut dire, d'inégalité si on est sur cette vision-là, qui se crée avec des gens qui vont préparer à côté avec plein de produits qui sont offerts et d'autres non. Et donc l'idée en effet de cette capitalisation, et ça a été fait dans plein de pays nordiques, c'est que tout le monde puisse bénéficier des effets positifs. Et l'autre élément, vous l'avez très justement dit, c'est que ça permettra aussi de financer énormément d'entreprises, dont les fameuses entreprises européennes. On parle toujours du rapport Draghi, de ces fameux 300 milliards qui vont aux États-Unis. Eh bien, c'est vrai que d'avoir ce marché des capitaux en plus, vu le montant de l'épargne, ça permettra aussi de financer les entreprises en général. Donc, il peut y avoir vraiment un cercle vertueux. Par capitalisation, vous êtes mieux placé que moi pour le dire. L'idée aussi, c'est de dire où on va investir. Alors, on va parler des fameux fonds vautours, mais il y a plein d'investissements qui sont tout à fait robustes, qui financent plein d'entreprises, qui ont une vraie productivité, etc. Donc voilà, on peut vraiment dans un financement très sain et peu risqué avec une retraite par capitalisation. C'est tout à fait possible.
Un dernier mot, Valentine, et puis on va passer au fonds vautours.
Je pense qu'il faut quand même être lucide. Il y a un déséquilibre démographique qui s'accélère. Dans les années 60, on était 4 personnes qui cotisaient, un retraité. Maintenant, on est autour de 1,7 et ce ratio va se détériorer. Donc, il faut trouver des solutions. Il n'y a pas de solution parfaite. Pour moi, c'est un mix de solutions qui doit être trouvé. À part passer à 100% en capitalisation, ça n'a aucun sens. Mais une approche mixte... Il n'en a jamais été question. Une approche mixte, c'est favorable. Et puis après, jouer sur les différentes variables. Mais je dirais, contourner le sujet en disant on va planquer les variables, moi, ce n'est pas l'approche que je préfère.
Bon, ça marche. On va continuer dans la lutte des classes, puisque Aurélie Trouvé, la présidente LFI de la Commission économique à l'Assemblée nationale, vient de publier un rapport sur les fonds vautours. Je cherche le titre de ce rapport. Voilà. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur, je cite, la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs. Alors on voit que dès le titre de ce rapport, il y a une approche évidemment un peu idéologique par rapport à ces fonds d'investissement. Elle pose aussi une vraie question, c'est-à-dire que les fonds vautours, ça existe aussi quand même. Mais est-ce que globalement les fonds d'investissement détruisent-ils réellement l'outil productif français? C'est ce que semble dire le rapport. Ou est-ce qu'ils sont là pour les développer au final? C'est quoi? Tiens, définissez-moi un fonds vautour. Premier exercice.
Je vais pas m'y livrer.
Pensez contre vous-même.
Mais très clairement, en fait, on aime bien dans ce pays trouver des boucs émissaires, quoi. Alors une fois de temps en temps, c'était les fonds de pension. On a eu les fonds de pension, etc.
Et oui. C'est moins gros mot. Non mais vous avez. Ça avance quand même.
On aime bien trouver en fait d'ailleurs
là, c'est
une forme de justice primitive à la René Girard, voilà, le bouc émissaire, etc. C'est comme on sait pas trop, on n'y connaît rien, ah bah ça doit être la faute d'eux, et donc là nos problèmes c'est la faute des fonds américains qui font des LBO, donc qui utilisent beaucoup de leviers, ça fragilise les entreprises, etc. Bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sous LBO, je sais plus au combienième LBO on est chez Picard surgelé ou dans le truc, mais
oui.
Il y a des entreprises qui vivent très bien sous LBO, qui font de la croissance, qui investissent, parce que en fait, pour gagner des sous avec un LBO, il faut faire de la croissance, manque de bol, quoi.
Elle définit ce qu'est un fonds vautour, c'est que c'est celui dont la stratégie vise à extraire des entreprises qui l'acquièrent une valeur déraisonnable, ce qui conduit à affaiblir structurellement cette entreprise, et ce qui induit évidemment des emplois détruits, des dettes alourdies et des outils de production à l'abandon. Est-ce que c'est ce qu'on constate parfois?
Non. Enfin, moi, c'est pas, en tout cas, je vois pas ça comme ça. Et par contre, ce qui manque, c'est du capital de long terme. Exactement. Là, on est tous d'accord. Il manque des fonds de pension. Ça, je veux dire, il manque des fonds de pension en France. Et le CAC 40 travaille, le SBF 120 travaille pour des investisseurs étrangers. Et là, il y a beaucoup de PIB, beaucoup de création de richesses, oui, made in France, qui est exporté pour aller assurer le bien-être des retraités californiens,
oui,
de CalPERS ou de PGGM ou d'APG en Hollande.
Ça veut dire que la France est devenue trop dépendante des capitaux étrangers. Là, vous soyez d'accord avec ce qui est dit dans le rapport. Hein, c'est que pour défendre notre souveraineté, on a besoin de capitaux, bon, français ou européens.
Oui, là,
Valentine Hénouz, puis Anne-Sophie Alti.
Oui, et puis ce qu'on peut regarder, c'est pourquoi ces fonds vautours, peut-être les niveaux de valorisation sont un peu plus attractifs.
Oui.
Peut-être que ces entreprises, elles retombent sur les mêmes sujets, ont des problèmes de financement, n'arrivent pas à trouver du financement. On voit aujourd'hui que le financement bancaire, l'accès au financement bancaire, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, on voit, et on rappelle que c'est quoi, 70% du financement en France, le financement intermédiaire.
Oui, on est sur ces ordres de grandeur, ce qui est inversement à ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, l'essentiel du financement des entreprises passe par les marchés. Donc, et puis après, on n'a pas des marchés financiers qui se sont développés comme aux États-Unis
sur la
dette privée, sur les fonds privés pour investir dans ces entreprises-là. Donc on retombe sur les mêmes sujets en fait. On manque de fonds pour investir sur du long terme sur ces entreprises.
Anne-Sophie,
non, mais ça montre aussi la question de l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire que parce qu'on n'a pas mis en place les bons outils, on va en effet stigmatiser telle ou telle structure. Le problème, c'est qu'on a un projet d'union des marchés de capitaux en Europe
qui patine. On n'a que 6 pays qui sont d'accord pour l'instant pour le monter.
Et donc, qui justement ont pour objectif d'avoir une profondeur de marché, d'avoir un investissement long terme, de flécher les investissements sur l'industrie européenne et notamment sur les secteurs stratégiques européens. Il y en a beaucoup aujourd'hui, on a des très très fortes dépendances. Donc c'est ça, en vrai, le vrai sujet qu'on ne règle pas ou peut-être pas assez vite. Et donc, parce qu'on ne le règle pas assez vite, en effet, on essaie de stigmatiser d'autres acteurs. C'est vraiment là-dessus, je pense, qu'il faut se fonder, quitte à
faire... Vous pensez qu'on va y arriver à un moment? Moi, ça fait 15 ans que j'entends parler de l'union des marchés.
On l'a vu, pas en France, mais voilà, l'Allemagne s'est quand même remis à réinvestir. C'était quand même quelque chose d'assez fondamental quand vous voyez la structuration de l'économie allemande qui, elle, est très dépendante des exports. C'est l'inverse de nous avec la consommation des ménages. Pareil, les pays du Sud, Italie et Espagne ont massivement réinvesti avec le plan de résilience pour l'Europe. Donc, on voit qu'il faut vraiment réinvestir, même dans les contributions à la croissance, partout dans les pays européens, on redevient positif. Donc ça, il y a vraiment l'idée qu'il faut investir. Après, la question, c'est comment on trouve les volumes d'investissement. Et là, en effet, on retombe sur la problématique de profondeur marché et l'union des marchés de capitaux qui n'est pas achevée.
Et d'éducation financière aussi, parce qu'on se rend compte quand même ce qui manque en Europe par rapport aux États-Unis ou par rapport à des pays comme les Pays-Bas et les pays nordiques. C'est sur certains pays européens, il y a un vrai manque d'éducation financière. Donc on essaye de faire le job ici, mais il y a quand même un véritable manque d'éducation financière aujourd'hui. Certains ménages ont peur quand ils investissent sur les marchés actions. Et l'autre point important, c'est quand ils veulent avoir du rendement et prendre du risque, eh bien, ils vont investir aux États-Unis. Ils investissent pas en Europe.
Et en même temps, les rendements sont supérieurs aux États-Unis.
Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc on n'investit pas assez, on manque d'actifs qui ont du rendement. Quand on veut du rendement, eh bien, on va le chercher aux États-Unis. Il y a quand même 30% de notre épargne qui se redirige vers les États-Unis quand on veut aller avoir un peu plus de rendement. Ou autrement, il y a une préférence pour l'immobilier. Et quand c'est les actifs financiers, eh bien, c'est pour les dépôts ou tout ce qui est à taux qui n'ont pas, absolument pas les rendements.
C'est la culture de l'Europe, on est conservateur.
Oui, mais quand on veut prendre du risque, on sort de nos frontières. C'est quand même des comportements à changer.
L'immobilier propriétaire. Hein. Je rappelle, on en parlait tout à l'heure, là, qu'on a tué le bailleur privé dans ce pays, à force de taxes, de règlements. Et donc, des bailleurs privés, il y en a quand même de moins en moins.
Oui. Hein,
C'est une des données majeures de la crise du logement dans ce pays. Par contre, les Français, et c'est peut-être parce qu'on a tué le bailleur privé, donc l'un et dans l'autre, par contre, les Français sont très volontiers propriétaires de leur logement principal.
Oui, la pierre reste
une grande partie de l'épargne des Français. Ouais. Vrai qu'on devrait, en fait, pour avoir des marchés plus équilibrés de ce point de vue-là, on devrait avoir évidemment le bailleur social, l'accession, et on devrait avoir des bailleurs privés.
On parle de fonds vautours là avec le rapport d'Aurélie Trouvé, mais il y a des fonds activistes aussi. Est-ce que vous avez eu affaire à des fonds activistes dans votre carrière?
Non, pas trop, parce qu'en fait, quand ça marche bien, ils viennent pas.
Ils sont pas venus vous voir. Donc vous n'avez pas eu.
Non, pendant mes 18 ans chez Unibail, il n'y en a pas eu de fonds activistes. Ils sont venus après, parce que la maison a eu ensuite quelques difficultés. Heureusement, c'est un peu derrière, mais. Non, les fonds activistes, tous ces fonds, toute cette forme de capitalisme.
Pas agressif, qui existe aussi.
Ils vont quand il y a des niveaux de valorisation attractifs. Bien sûr.
Ils obligent les managements à se bouger un petit peu. Ils provoquent des évictions de patrons.
Oui.
Ce qui, franchement, de temps en temps, est utile, cocotier. Je le dis, oui. Tranquillement.
Oui, oui.
Nous, en France, on a un petit peu l'habitude. Vous savez, de temps en temps, encore quelques amis à la FEP, c'est toujours les mêmes. Alors, c'est pas compliqué. Le turnover des grands patrons en France, c'est on retombe toujours sur les mêmes. Alors, en plus, maintenant...
Plus qu'ailleurs.
Oui, beaucoup plus qu'ailleurs. Et puis, en plus, ils terminent leur carrière comme président non exécutif du conseil d'administration. Alors, c'est toujours encore les mêmes. Ce sont les carrières qui n'en finissent plus. Là, il n'y a pas d'âge de la retraite. Là, il n'y a pas d'âge de la retraite pour patrons.
Il manque l'exemple, effectivement.
Oui, donc, en fait, on a une population plus âgée qu'aux États-Unis. Et puis surtout moins mobile. C'est une des caractéristiques.
Donc c'est une forme de capitalisme utile, mais qui n'atteint pas trop la France. On est assez protégé de ça globalement. C'est un peu ce que vous nous dites.
On a une vision un peu traditionnelle de la gouvernance de nos entreprises. Oui. Bon, c'est sympa, on les connaît. Ouais, c'est bouge pas.
On n'est pas des fils. Stabilité. Il y a une forme souvent l'entreprise demande la stabilité normative fiscale.
Voilà.
Et par contre, quand ça va mal, il y a les fonds de vautours qui viennent et donc là il y a du turnover.
Ok. Bon, une dernière question très rapide parce qu'il nous reste encore quelques secondes ensemble. Est-ce qu'il faut plafonner la dette des LBO? Est-ce que les LBO, c'est un gros mot aussi en France, hein? Leverage buyout, je rappelle, c'est du rachat par entreprise avec effet de levier. Donc on endette l'entreprise pour la racheter et on oblige un peu à booster la performance.
Ça, moi,
il faut l'encadrer ou pas, Anne-Sophie
Altif? Quantitatif pour évaluer même ce qui se fait au niveau européen. Après, ce que vous avez très justement dit, c'est que il y a vraiment la question de la performance. Et justement, si vous êtes dans un marché en pleine croissance avec de l'investissement qui est moins basé sur la consommation, c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir de la performance pour tous les acteurs et aussi pour vos salariés. Donc il y a un côté un peu effet boule de neige qui est très positif quand vous avez un peu plus d'investissement dans la contribution de votre économie.
Évidemment. Bon, Guillaume, vous citiez l'exemple de Picard tout à l'heure.
Non, en fait, je pense que la vraie différence, c'est l'horizon. Moi, j'aime bien investir dans les entreprises familiales parce que c'est vrai qu'il y a plus d'horizon, il y a plus de longueur, il y a plus de maturité, etc. Aller faire un gros TRI sur 4 ans ou 5 ans, c'est...
Un taux de retour sur investissement, ça peut parfois mettre...
Si on commence à sortir tout l'immobilier ou le trésorerie, c'est ça, je pense que c'est ça qui est mis avant et critiqué dans ce rapport.
Donc un peu d'équilibre, vous êtes d'accord avec ça, Valentine?
Un peu d'équilibre, ce que je voudrais mettre en avant, et c'est pas simplement un problème européen, c'est qu'aujourd'hui il y a une asymétrie très forte sur le financement des grandes entreprises qui ont accès au marché et des petites entreprises qui ont juste accès au financement bancaire. Et là, c'est vraiment un sujet, mais pas seulement en Europe, aussi aux États-Unis. Hein, on appelle ça l'économie en cas. Mais pour moi, c'est vraiment un sujet qui va devoir être abordé. C'est ce financement pour les petites entreprises qui n'ont pas accès au marché aujourd'hui.
Il faut ouvrir le marché obligataire aux petites entreprises. Il faut trouver le moyen d'ouvrir le marché obligataire aux petites entreprises. Je suis tout à fait d'accord. Passons d'un grand groupe à une petite entreprise. 200 points de base pour le même taux d'endettement. Exactement. Pour les mêmes actifs, et oui. 200 points de base plus cher.
Allez, parce que je passe sujet majeur, on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Merci à tous les trois, Anne-Sophie Alcive, Guillaume Poitrinal et Valentine Hénouze pour cette émission.